Rebonjour à tous. Voilà, nous allons commencer notre première séance de l'après-midi sur ce panel consacré à l'approche comparative des bonnes pratiques, prévention et réinsertion. Donc là aussi, nous allons avoir vraiment des retours d'expérience et des échanges autour de retours d'expérience de gens de terrain, de gens expérimentés. Donc je vais présenter nos panélistes. Par ordre d'apparition, en tout cas selon l'ordre. Donc, tout d'abord, M. Kone Djibril, qui est un référent régional sur les questions de sécurité, de questions d'accès humanitaire en zone de conflit dans la région Sahel. Donc, il va prendre la parole en premier. Ensuite, nous avons Leïla Fatri, qui dirige depuis 2016 le département conception, suivi et évaluation de recherche de Search Morocco. Elle est experte en gouvernance de la sécurité et voilà, questions liées à violence armée, terrorisme, résolution de conflits. Donc, dans ses méthodes, elle conçoit, dans son approche, elle conçoit des méthodologies combinant des approches juridiques et sociologie de conflits. Et donc, elle travaille sur des analyses à la fois de qualitatives et disons, des études de terrain. Je pourrais développer beaucoup les présentations biographiques et bibliographiques de chacun, mais comme le temps est court, je vais un peu présenter de manière succincte et on aura l'occasion de revenir. Bakary Sambé, qui dirige le Timbuktu Institute. Bakary Sambé est un éminent penseur et homme de terrain africain, qui a une solide formation, en langue arabe tout d'abord, en théologie, en religieux, donc le religieux contemporain. Il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages et aussi, il a accumulé une considérable expérience en tant que consultant international auprès d'organisations internationales et régionales sur l'Afrique et les problèmes liés au mouvement armé. Et nous avons ensuite Claude Mbou, qui est spécialiste du bassin du lac Tchad, et aussi un homme de terrain qui vraiment a une très grande maîtrise de terrain, qui sont des terrains que finalement nous ne connaissons que très peu, principalement le nord du Cameroun, le nord-est du Nigeria, le Niger et le lac Tchad. Donc il est chercheur à l'université de la Sorbonne et il a un rattachement là-bas et il est aussi chargé de cours. Nous avons travaillé aussi ensemble dans le cadre du projet Sahel d'étude des perceptions dont je vous ai parlé hier. Nous avons aussi Madame Ndeye Sagar Tal, avec qui j'ai eu le plaisir de converser ce matin, qui m'a parlé elle préside cette association Entente Féminine des SICAP du Sénégal. Elle m'a expliqué un petit peu ce matin ses démarches d'organiser des discussions dans des scènes ouvertes, publiques. Son souci aussi est de toujours coller, les destinataires, le public cible doit être le plus large possible et le plus proche des réalités. Donc je serais très heureux d'avoir son témoignage. Et enfin, M. Khalid Arzali, qui est directeur adjoint du Centre interuniversitaire Culture, Droit et Religion, FIDR, et enseignant à l'Université de Lausanne et l'Université de Padoue. Donc, c'est mon voisin suisse, je me réjouis. Et donc il coordonne des unités de recherche sur les questions de radicalisation violente, donc de la radicalisation dans les prisons, donc un certain nombre de compétences intéressantes, on en avait parlé ce matin. Donc il est chercheur associé au Centre d'analyse et d'intervention sociologique, le CADIS, à l'EHESS, donc nous aurons l'occasion de l'entendre. Alors je crois que nous allons commencer tout de suite par une présentation. Chacun aura 5 minutes, donc je vous prierai de respecter le temps de parole. Et puis, la discussion va commencer ensuite, se poursuivre. À vous la parole, Monsieur Kone.
Merci bien. Alors, moi, je vais intervenir sur l'accès humanitaire en zone de conflit. et toute la violence qu'on vit quand même présentement dans les pays du Sahel avec la militarisation, si on peut dire comme ça, de l'espace humanitaire. Alors, si l'on prend certains chiffres, notamment de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, le Sahel aujourd'hui, on a 5 millions de personnes qui sont en besoin d'assistance alimentaire, dont 1,6 million d'enfants sont en risque de malnutrition aiguë sévère. Et 2,5 millions d'éleveurs et agro-éleveurs ont besoin d'une aide urgente, au moins de subsistance. Alors, si l'on prend un pays comme le Mali aujourd'hui, 36% de la population au total, notamment des zones nord, centre et même du sud, sont affectées directement par le conflit qui se passe présentement dans ce pays. Alors, la dégradation du contexte sécuritaire couplé à une pauvreté chronique et récurrente, des crises, les manques structurels d'investissement dans certaines zones sont autant de problématiques qui ne cessent de menacer le développement des pays du Sahel et la capacité de résilience des ménages et des communautés qui y vivent. Alors, cette situation humanitaire reste vraiment très préoccupante quand on prend en compte la situation sécuritaire qui est de plus en plus conjoncturelle, notamment les conflits intercommunautaires, comme je l'avais dit tout de suite, la militarisation de l'espace humanitaire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons d'abord les forces de la MINUSMA, qui sont des forces des Nations Unies qui ont été déployées au Mali pour sa stabilisation. Nous avons Barkhane, la force française. Nous avons les forces maliennes. Nous avons tous les milices aussi constituées qui sont au nord, au centre du pays et présentement aussi le G5 Sahel. Et ce qui se passe aussi, qui est quand même préoccupant pour les humanitaires qui interviennent dans cette zone, c'est aussi dans le cadre des actions civilo-militaires, on constate de plus en plus des militaires aussi qui se donnent aux activités humanitaires, qui passent soit dans des centres de santé ou des écoles, etc., qui font de l'action humanitaire. Et pour nous qui travaillons quand même pour se faire accepter par la population avec une certaine indépendance, il y a une sorte de confusion aujourd'hui. On a du mal à tracer la ligne de démarcation entre les humanitaires qui sont vraiment des humanitaires civils et des humanitaires militaires. Et en plus encore, quand on prend certaines actions qui sont prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, notamment souvent dans des zones comme Gao ou Mopti ou même le nord-est du Niger, l'armée peut comme ça décider de suspendre ou d'interdire la circulation des engins, des motos, des véhicules. Et donc ça, c'est des moyens sans lesquels on ne peut pas couvrir ou aller toucher les populations qui sont en besoin d'être soutenues. Alors la violence, elle devient... c'est des populations aussi qui sont quand même en train de vivre cette violence parce que les empêcher d'accéder à un certain nombre de services, c'est aussi une forme vraiment de violence. Alors, de plus en plus, la MINUSMA, qui est quand même une force avec beaucoup de moyens, n'hésite pas aussi quelque part de marcher, si on peut dire comme ça, sur le pied des humanitaires. Par exemple, quand les humanitaires ont des principes, ils ont des conditions qui sont bien définies, qui les permettent d'intervenir, alors que ces forces-là, que ce soit Barkhane, la MINUSMA, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire, il n'y a pas de règles. On vient, on veut faire un point d'eau, on fait les points d'eau. Finalement, tous les principes ou les mécanismes qui sont mis par les humanitaires pour expliquer aux populations que voilà, il y a des règles, il y a des règles, toutes ces règles sont violées par ces forces-là qui font que finalement, par rapport à tout le travail qui est fait sur l'acceptance, ça pose des problèmes. Donc c'est aussi une sorte de violence à l'endroit du monde humanitaire. Donc quand vous prenez aujourd'hui, il y a aussi une sorte, à côté de tous ces groupes armés, c'est-à-dire les groupes signataires, la force Barkhane, la MINUSMA, il y a une sorte aujourd'hui de répartition zonale au Mali. C'est-à-dire, vous avez la région de Kidal par les groupes qu'on appelle les groupes terroristes. Vous avez par exemple la région de Kidal où vous avez Ansar Dine qui s'est installé. Vous avez la région de Gao qui a été confiée comme ça à l'EGS, l'État islamique dans le Grand Sahara. Vous avez la région de Tombouctou où on a Acmi. Vous avez le centre du Mali, la région de Mopti, où vous avez les Katiba Pel du Massina. Donc c'est une sorte de répartition zonale. Et le défi pour les acteurs humanitaires aussi, c'est de pouvoir discuter avec toutes ces parties-là. Voilà, et ça aussi, c'est un problème. Parce que quelque part, les humanitaires sont considérés souvent à tort comme des complices, des gens qui parviennent à aller dans des endroits où l'État n'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de zones grises, et dans ces zones grises, il y a des populations qui y vivent. Donc, voilà un peu...
Si vous pouviez conclure, je suis cruel, mais je dois respecter le temps de parole pour les autres. Donc.
OK. Donc, merci bien.
Leïla Fethil, la parole est à vous. Voilà, si on peut tenir les 5 ou 6 minutes, mais vous avez eu un peu plus que les 5 minutes, mais malheureusement, c'est mon rôle. Donc,
pour moi,
excusez-moi
ça va être cruel ou j'aurai un peu plus que 5. Je vais pas gratter sur mes minutes pour vous remercier, l'UIR, de m'avoir invité. On pourra en discuter plus tard, mais je suis très heureuse d'être ici. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais pouvoir partager avec vous l'expérience des praticiens dans le cadre de l'emploi dans lequel je suis, qui est chargée de suivi et d'évaluation au sein de l'organisation Search for Common Ground. Et donc, ici, en fait, dans ma présentation, j'aimerais ouvrir une discussion et une réflexion sur la valeur ajoutée des ONG dans ce domaine-là. On parle beaucoup d'actions qui sont faites, on parle beaucoup de conflits, et les ONG sont devenues un acteur partie prenante, d'une part à la solution, mais également des fois au problème. Donc, je vais avoir une conversation très honnête avec vous sur notre travail, dans un objectif déjà de transparence, et également de pouvoir faire avancer et améliorer, et vous inviter, vous, à vous intéresser un peu plus sur le travail des ONG comme acteurs dans la thématique du conflit. Donc SFCG, pour présenter très rapidement, c'est une ONG qui est active au Maroc depuis 2001, c'est une ONG internationale, et cette organisation a pour vocation à contribuer au développement de stratégies qui permettent de renforcer les pratiques réflexives et de renforcement de capacités de différents acteurs sociaux. Donc, c'est-à-dire que ce que l'on souhaite avoir, c'est un changement durable, en impliquant le plus possible les différents acteurs qui jouent un rôle dans le déséquilibre. Et donc, par rapport à ça, nous développons une approche de changement qui devient en fait notre pilier fondateur pour ensuite pouvoir le décliner en différentes stratégies. Et par là, j'aimerais donc pouvoir parler de notre action concrètement, mais également des limites de nos actions, et surtout qu'est-ce que ça veut dire d'agir sur le conflit dans un pays comme le Maroc, un pays où il n'y a pas de conflit visible. Donc qu'est-ce que ça veut dire agir sur la violence, qu'est-ce que ça veut dire réellement, quel est notre rôle en tant qu'ONG. Donc cette présentation, elle a pour objectif d'être une prise de conscience par rapport à la complexité de la thématique, mais aussi pour pouvoir, donc, comme je l'ai dit au départ, inviter les chercheurs à s'intéresser à nous. Alors l'approche Common Ground, très rapidement, c'est de considérer que le conflit n'est pas une fatalité, ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est quelque chose qui est autour de nous et qui est en fait un paramètre. Donc ça veut dire qu'il est également modifiable et manipulable. Et à partir de là, nous développons donc des stratégies basées sur 3 piliers principaux. D'une part, identifier les acteurs clés pour régler le conflit, donc ceux qui peuvent vraiment être impliqués. Ensuite, identifier les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir créer une synergie. Et enfin, définir et visionner l'environnement qui pourra avoir un, qui pourra créer un cercle vertueux. Donc, à partir de là, notre action, principalement, agit sur la transformation plutôt que la résolution des conflits. Et au lieu de parler de conflits, on préfère parler de déséquilibre. Cela va permettre, ça va nous permettre en fait de décliner notre action sur différents niveaux de changement. Changement au niveau de l'individu, changement au niveau de la perception de l'autre, changement au niveau de la perception même de l'enjeu en cause. Faire en sorte que les acteurs du conflit qui peuvent agir puissent comprendre qu'ils ont des intérêts communs à le régler plutôt qu'à laisser des situations de statu quo. Et donc là, on va par exemple agir sur les préjugés, sur les stéréotypes, faire des campagnes de plaidoyer, faire des formations avec des acteurs qui peuvent avoir un effet instrumental en fait pour la résolution, pour le rétablissement de l'équilibre. Et je vais essayer d'être courte parce que ma présentation était vouée à être beaucoup plus longue. Mais donc, à partir de là, on peut dire, voilà, idéalement, tout fonctionne, tout marche très bien. Mais en pratique, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup d'obstacles et qu'il y a beaucoup de rouages, en fait, qui sont un petit peu, qui restent bloqués. Et c'est notamment dans le cadre où on se pose la question, en fait, qu'est-ce qui reste une fois que le projet est terminé ? Nos projets durent en général 2 ans. Mais une fois que le projet est terminé, une fois qu'on a formé tous les gens qu'il fallait former, qu'est-ce qu'il nous reste ? Et ça, c'est ce qui nous est arrivé dans le cadre d'un projet qu'on a fait au Maroc, qui était dans les centres de protection de l'enfance. Notre objectif, c'était de réduire le niveau de violence dans les centres. Donc, on a agi avec les éducateurs, on a formé 128 éducateurs dans les 15 centres qui sont actifs au Maroc. On a pu, à partir de là, former des éducateurs pairs. Et à partir de là, chaque éducateur pair a pu former 10 enfants chacun, ce qui faisait un total de 255. C'est relativement faible, mais c'est relativement également élevé. Parce que ça veut dire que nous sommes certains que toutes ces personnes-là ont été formées et ont bénéficié d'une opportunité de réfléchir et de résoudre à leurs problèmes. Donc ce projet qui avait initialement pour objectif d'institutionnaliser la résolution des conflits, ben, en tant que tel, il n'a pas vraiment réussi à atteindre cet objectif. Parce qu'on a été confronté à une réalité qui était, est-ce que nos outils sont accessibles déjà d'une part pour les enfants ? Donc il fallait les réajuster de façon à ce que les enfants marocains dans les centres puissent assimiler ces outils-là et ces méthodes-là. Et je pourrais m'étendre là-dessus s'il y a des questions au moment des questions. Je vais conclure, ouais. Donc, nous avons pu obtenir des résultats quantitatifs certains et des résultats qualitatifs également certains dans la mesure où les individus qui étaient impliqués dans l'action continuent à agir dans les centres. Mais une fois qu'un enfant sort du centre, un nouvel enfant rentre du centre, le déséquilibre se recrée. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte que finalement nos outils, notre approche command ground, la médiation, le système formation, formateur pair et ensuite formateur de bénéficiaires plus marginalisés ne peut pas fonctionner sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut poser la question, est-ce que les ONG sont réellement des acteurs pour la paix et finalement des architectes pour la paix ou finalement ce sont des publicitaires du conflit. Et est-ce qu'on continue en fait à fonctionner ? Pour nous, c'est notre intérêt que le conflit, que la violence existe. Et donc c'est là qu'en fait, il faut que nous nous posions une question en interne sur quel est notre but réel ? Est-ce que c'est un but marketable et donc c'est au final les fonds monétaires qui nous intéressent ou réellement toucher et atteindre les populations les plus marginalisées ? Une bonne ONG, finalement, c'est une ONG où on n'a plus besoin d'elle. Et il faut se poser cette question aujourd'hui. Et je vais juste conclure sur ce point-là. D'où l'intérêt d'avoir des chercheurs externes qui s'intéressent sur nos actions, puisque personne ne nous évalue. La seule façon de nous évaluer, de nous pouvoir en fait nous remettre en question, c'est au moment où on se rend compte qu'on ne reçoit plus de fonds et on n'est plus crédible. Mais ça, c'est trop tard, puisqu'on a besoin des ONG en tant que stabilisateurs. Nous avons un rôle de stabilisation et de solidification qu'il faut pouvoir maintenir dans la mesure où la communauté civile s'intéresse plus à nous.
Merci beaucoup, la Fatrie. Les interventions sont courtes, mais très intenses. Donc, ce n'est pas forcément réducteur parce que ça va circuler. Vous aurez l'occasion de revenir et vous avez aussi un auditoire privilégié. Bakary Sambé, à vous la parole. Nul doute que vous respecterez le temps de parole. Vous êtes un professionnel de
C'est quoi cette présomption de... Alors, bonjour tout le monde. Donc, l'expérience que je vais, un ensemble d'expériences que je vais raconter par rapport à la pertinence des stratégies endogènes de règlement et de résolution de conflits. Nous sommes en 2014 et je vais au Forum de Dakar et je dis quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde. J'ai dit, au moment où on parlait de stratégie Sahel, j'ai dit à la communauté internationale que au moins, vous avez au moins 40 ans de retard par rapport au réseau que vous cherchez à combattre dans le Sahel. 40 ans pourquoi ? Dans les années 70, c'était les années des sécheresses, vous n'avez pas d'argent, vous étiez en crise pétrolière, je parle de manière très crue, hein, comme ça. Vous étiez en crise pétrolière et financière, et vous n'avez pas les moyens d'aider l'Afrique et le pays du Sahel. Ceux qui en avaient de l'argent, c'était les vendeurs de pétrole, les pétrodollars. Ils n'ont pas seulement amené de l'aide en creusant les puits, en construisant les écoles, mais ils ont amené des idéologies. Dans les années 90, vous n'avez pas réalisé que vous avez un retard aussi énorme, la communauté internationale, occidentale de surcroît. Vous avez imposé aux pays africains les politiques d'ajustement structurel en leur demandant d'investir le moins possible dans l'éducation, la santé, le social, en disant ce slogan creux de la communauté internationale à l'époque, c'était faire moins d'État et mieux d'État. Pendant ce temps, ces pays-là ont financé des ONG qui sont revenus, qui ont créé des écoles bien préparées avec des curricula. Ils ont formé des gens, ils ont eu des mouvements. Les populations croient en eux comme de véritables humanitaires et vous êtes arrivés en 2014, c'est-à-dire 40 ans après, pour dire que vous faites une stratégie Sahel. Dit comme ça, je me suis dit c'est une bonne manière pour moi de ne pas travailler peut-être avec eux, mais ça m'a rattrapé, j'ai travaillé pour eux. Donc j'ai été après recruté pour accompagner l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahel sur la question de la radicalisation. Et sur ce, toujours fidèle à cette démarche, je leur demande, est-ce que je peux interroger les acteurs religieux ? On parle beaucoup d'eux, mais on ne les interroge pas trop. D'abord, pour ma définition de la radicalisation que j'ai dit hier, et je demande à un cheikh que Yusra connaît très bien, il l'a reçu finalement, dans son passage au Maroc, c'est le mufti du Nigeria, le cheikh Ibrahim Saleh Al-Husseini. Je lui dis, c'est quoi la cause des problèmes du Sahel, etc. Et c'est quoi la solution ? Il me dit, je vous réponds en une phrase. Tout cela, c'est la combinaison entre les effets de l'arrogance des injustes et l'ignorance de ceux qui se sentent victimes. Ratrasat al-zalimin wa jahlul mazloumin. Ok. Et cette crise continue donc par le nord du Mali, etc., jusqu'à ce que, au plus fort des exactions de Boko Haram dans le bassin de la Tchad, 2014-2015, et là, tout le monde pense à une militarisation des choses. On crée plus tard la force multinationale, etc. Et il y a eu un événement très heureux. C'était la convocation de la conférence internationale sur la culture de la paix dans le bassin du lac Tchad. Et c'est tombé à une période où on implantait l'université d'Ifa. D'Ifa, c'était vraiment avec les exactions de Boko Haram. Personne n'osait y aller. Mais l'ambition, c'était d'y mettre une université au moins. Et on demande à des chercheurs africains volontaires téméraires d'aller à 5 km du front de Boko Haram. J'étais volontaire. Et il y a eu ce débat-là. Et j'ai posé une question qui, à l'époque, avait dérangé tout le monde. Je pose la question, j'ai dit, bon, la communauté internationale est bien représentée, mais je pose la question suivante. Est-ce qu'on va indéfiniment imposer aux pays africains de n'offrir à leurs enfants, y compris leurs enfants perdus qui ont rejoint Boko Haram, que deux solutions, la mort ou la mort. La mort dans Boko Haram lors d'un bombardement ou la mort quand vous sortez. Est-ce qu'il n'est pas temps de leur parler tout de suite? Ah non, 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 on ne parle pas aux terroristes, etc. J'ai dit, mais en Espagne, est-ce qu'on n'a pas parlé à ETA? En Irlande du Nord, est-ce qu'on n'a pas parlé à l'IRA? Et en France même, on peut parler aux Corses. Donc, je pense que... Et à l'époque, on me dit, mais comment ça se ferait ? L'idée qu'on avait proposée, c'était avec l'université d'IFA et des chercheurs, de dire à l'État du Niger, pourquoi pas ? Donner une chance en disant que ceux qui sont dans Boko Haram peuvent sortir. Mais une fois qu'ils sortent, ils ne seront pas libérés. Ils seront dans les camps, on va les réinsérer, etc. Bon. Mais sous la caution des chefs religieux et des chefs coutumiers, donc les sultans, vous savez, au Niger, il y a des sultans partout, le sultan de Damagaram, le sultan de Dosso, etc. Et pourquoi pas, le ministre de l'Intérieur, Bazoum, prend la décision de dire que les jeunes Nigériens qui veulent sortir de Boko Haram peuvent sortir maintenant. Et première vague, 1000 personnes sont sorties de Boko Haram. Ça a eu deux effets. Ça ralentit, ça a complètement affaibli le mouvement parce avec les désertions, mais ça permet aussi d'en comprendre. On les met dans un camp, et ce qui rejoint le panel de ce matin, dans un cas de Goudoumaria, et les communautés commencent à dire « mais non, ce n'est pas possible ». Il y a des jeunes qui ont tué, qui ont volé le bétail, qui ont fait beaucoup de mal, et maintenant on les met dans des centres climatisés. Tu sais qu'il n'y avait pas la clim, mais les populations, on les met dans les centres climatisés et on leur donne même des sucreries. Ce n'est pas possible, ça c'est une forme d'incitation. Et sur ce, le gouvernement du Niger avait pris des mesures sécuritaires qui n'ont pas réglé le problème. La seule réponse du gouvernement du Niger par rapport au financement de Boko Haram, en découvrant que Boko Haram contrôlait le commerce du poivron et du poisson séché, c'était d'interdire. Alors, on prend un décret, toute bête, on a interdit le commerce du poivron et du poisson séché. La conséquence, ça a tué l'économie locale. Et du coup, une entreprise qui s'appelle Boko Haram est devenue le premier employeur de la région. Parce que en proposant aux jeunes 300 000 et une moto. Et en suivant ce process aujourd'hui, bon... c'est vrai que les attaques continuent, mais quand on baisse, quand vous allez dans les zones de Bosso, de Chetimari, de Guigmé, et jusque dans certaines îles du lac Tchad, comme Mitérié, les attaques ont quand même baissé en termes d'intensité, et un processus est ouvert au moins pour véritablement sortir des conditions sécuritaires qui ne règlent pas le problème. Si l'approche militaire pouvait arriver à bout du terrorisme, les Américains sont restés 15 ans en Afghanistan, il y a encore quelques talibans. La France est intervenue au nord du Mali. Les groupes n'ont pas disparu, mais ils sont multipliés. Et on continue maintenant à investir sur le militaire en laissant de côté le social, les stratégies endogènes de règlement de conflits qui ont payé un peu dans le bassin de la Tchad et qu'on pourrait beaucoup plus multiplier sur d'autres frontières autour du bassin de la Tchad, à part de Garoua, Maroua, Guigmi, sur le nord Cameroun, Guigmi, Chetimari et Bosso et dans toute cette région. Après, j'aurai l'occasion de revenir sur cette expérience.
Merci beaucoup, Bakary Sambé. Claude Mbou, je sais que ça va être presque, je vais presque exercer une forme de torture sur toi de te demander d'exprimer en 5 minutes, mais disons de tes nombreuses expériences, travaux de recherche sur le terrain, voilà, dans un temps très court, quel est le message ou disons l'idée que tu voudrais partager pour nourrir la discussion qui va s'en suivre entre vous et avec le public. Merci.
Je me réjouis de prendre la parole ici et essayer de contribuer au pot commun qui a été nourri depuis hier. Et j'ai voulu pour cela m'appuyer sur un retour d'expérience, c'est le mot consacré ici, en essayant de prendre au sérieux la commande qui nous avait été faite, celle de réfléchir sur deux problématiques que je trouve du coup intéressant de lier, réfléchir sur les causes de la violence, mais aussi sur les moyens d'en sortir, alors ou sur les stratégies mises en place pour en sortir. J'ai eu deux types d'accès sur mon terrain, des accès en tant que chercheur, mais aussi des accès en tant que consultant. Et ce sont ces deux types de données que je réunis pour réfléchir. Et le cas que je présente concerne donc un projet de sortie de la violence que j'étais invité à évaluer. Là, je rebondis sur les préoccupations que vous avez exprimées. Un important projet, je ne peux pas en dire plus au regard des clauses de confidentialité auxquelles je suis tenu, mais je crois pouvoir décrire dans ses traits essentiels le concept du projet et son fonctionnement concret. Et donc, il s'agissait, comme cela a été présenté, de constituer un dispositif de mobilisation communautaire en vue de contrer et prévenir l'extrémisme violent. Et la principale stratégie comme je le dis, l'idée était formulée sous la forme d'une intention des plus nobles qu'on peut difficilement discuter, donc de s'appuyer sur une stratégie impliquant directement les populations. Slide suivant. Mais en termes très pratiques, très concrets, ce que j'ai observé, c'est que contrer ou prévenir l'extrémisme violent a consisté finalement en diverses activités visant à prévenir l'influence de Boko Haram ou des courants religieux considérés comme agissant comme des faux-nés de Boko Haram. Je précise que le cas concerne uniquement une zone sous influence de Boko Haram, parce que la mise en contexte est importante au regard du type de sujet que nous abordons. Je pourrais être peut-être plus précis sur le sujet. Donc, il s'agissait de sensibiliser aux dangers directs, de sensibiliser sur les dangers de Boko Haram, de promouvoir des formes d'activité culturelle favorables à une vie sociale à l'opposé du modèle de société promu par les extrémistes, activités sportives, musique, danse, bref, tout ce qui peut favoriser la mixité, etc., etc. Promouvoir des activités génératrices de revenus pour éviter que la nécessité n'expose ces personnes considérées comme vulnérables à l'attraction de Boko Haram. Voilà, en gros, la description que je peux vous proposer de l'ensemble de l'opération. Et donc, en termes d'implication directe des populations, en quoi ça consistait concrètement? Identifier des leaders communautaires sur lesquels on s'appuie, ils constituent un réseau. Les réseaux bénéficient de divers moyens en termes de formation, en termes de ressources, pour mener les activités qui ont été précédemment décrites. Alors, quel est donc le problème qui se pose? Et c'est là où le chercheur émerge et met en réflexivité la pratique à laquelle il est convié comme consultant. Et donc, et cela va nous renvoyer à l'intérêt du titre, qui n'était pas que spéculatif, ou n'invitait pas que à une réflexion spéculative, le lien entre extrémisme et violence. Donc, premier problème, une théorie de l'action insuffisamment problématisée, ce que je souligne. On l'a vu tout à l'heure, contrer l'extrémisme violent, c'était supposer que s'il y a de la violence, c'est parce qu'il y a de l'extrémisme. Et donc, on lie systématiquement les deux enjeux. En l'occurrence, qu'il y a un conditionnement idéologique. On a beaucoup parlé de religieux, de l'influence des courants extrémistes. Voilà le postulat central de la démarche. Mais je dis que cette représentation du problème à traiter est prisonnière d'une thématisation en termes de sens. Elle est la réponse à une question. Pourquoi on devient Boko Haram? Le sens et l'idéologie déjà là, déjà constitués, contre lequel il faut agir en implantant dans l'espace social à défendre des détecteurs de ces vecteurs. Donc, la suite. Mais je note que cette représentation occulte d'autres possibles. Ce qu'on ne repère que quand on cherche plutôt à répondre à une autre question, comment on devient Boko Haram dans ces localités? Ou en d'autres termes, comment en vient-on à être désigné comme Boko Haram? Je pense que vous percevez très bien la nuance. Car on devient Boko Haram parce qu'on a été désigné comme Boko Haram. C'est aussi un aspect. Ça, c'est en tant que chercheur que je me saisis de cet enjeu au fil de mes travaux sur ces terrains. Par la rumeur, la délation, les jeux d'étiquetage, et être désigné comme tel vous condamne à être considéré comme tel ou vous condamne à le devenir, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Je pourrais en parler amplement. Donc, mais cela suppose qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de désigner et que désigner qui est Boko Haram est aussi devenu un enjeu de pouvoir. Ça me semble une clé essentielle de la réflexion que je nous propose d'avoir ensemble. La suite. Donc, on retrouve dans ces mécanismes d'étiquetage des logiques semblables à celles des accusations en sorcellerie, telles que de nombreux anthropologues en ont étudié, ou celles que des sociologues ont décrites en traitant des déviants. Donc, en l'occurrence, la comparaison est toujours utile, parce que ça permet de voir quels éléments on peut puiser dans ce qui a été produit comme stock de connaissances. Le groupe confronté à la violence et à diverses formes de pression, ça c'est ce qu'on peut retrouver dans la littérature, à diverses formes de pression, en l'occurrence de l'État, parce qu'il y a un retour en force de l'État dans ces localités, qui demande, dites-nous qui est Boko Haram, donnez-nous des noms des insurgés. C'est comme ça que ça s'est passé, et donc il y a une conjoncture du soupçon qui a complètement modifié les affects, les rapports sociaux les interactions, etc., etc. Donc, comment le groupe réagit face à ça? Primo, déplacer les conflits sur une entité minoritaire extérieure au groupe. C'est le cas avec la tendance à la stigmatisation des Boudouma au Niger, des Peuls au Mali ou des Kanouri au nord du Cameroun ou Nigeria, en renvoyant la menace sur un groupe extérieur. On connaît, il y a des exemples très concrets. Secondo, viser d'office les outsiders du groupe, donc les marginaux, les mendiants. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ce qui a été dit sur le sujet. Mendiant, c'était beaucoup arabe et on ne réfléchissait pas sur ce que ça signifie concrètement dans ces sociétés. Donc, de fait des enjeux de pouvoir, la dénonciation est un outil de contrôle social au service des groupes dominants. La suite.
Si on peut conclure.
D'où le deuxième problème, et où je vais conclure, les enjeux de pouvoir sont complètement occultés dans le cas étudié. Le dispositif mis en place, on sélectionne les leaders. Parce que les leaders dont il est question, c'est ceux qui avaient le pouvoir de désigner qui est Boko Haram dans la société, les chefs coutumiers, les leaders d'associations, bien des gens introduits dans le réseau de l'État qui avaient l'écoute des autorités et dont les autorités recherchaient la parole pour expliquer ce qui se passe. Donc, alors, lorsqu'on met en place le réseau, on vient renforcer le pouvoir de ceux qui sont perçus par ces franges de la société comme étant le problème. Parce que c'est eux qui ont, par ces jeux d'étiquetage, désigné des gens et ça se sait au sein des communautés, même si ça ne se dit pas, parce que c'est des gens de pouvoir. Et donc, faute de prendre en compte de tels enjeux, des formes d'action publique comme celle que j'ai étudiée et présentées comme visant à contrer l'extrémisme violent deviennent mécaniquement, du fait de tels aveuglements, de simples dispositifs de maintien de l'ordre à rebours de toute prétention à la transformation sociale et politique, qui me semble au cœur de ce que nous devons avoir comme préoccupation lorsqu'on réfléchit sur ces violences. Voilà ce que je crois pouvoir dire et jeter à la discussion.
Merci beaucoup, Claude Mouhou. Tout de suite, la parole est à Madame Ndeye Sagartal, s'il vous plaît.
Bonjour, l'assistance. Je m'en vais me confondre aux remerciements pour ne pas trop grignoter sur le temps aussi. Donc, nous intervenons, notre sujet également va porter sur le rôle des femmes dans la prévention et l'alerte précoce. Donc, nous sommes au départ une association, l'Entente féminine des SICAP, qui s'organise dans des activités communautaires de base. Et nous avons au cours de l'année une activité phare qui se trouve être une conférence religieuse. Et en avril 2014, nous nous sommes réveillés totalement enivrés par les unes des journaux qui parlaient de l'enlèvement de 276 lycéennes nigérianes par Boko Haram à Chibok. Et immédiatement, le lien a été fait avec le lycée John Fitzgerald Kennedy, qui est également un lycée de jeunes filles. Et là, c'est la fibre des mamans de l'entente qui fut alors fortement secouée. Et c'est ainsi que l'association a décidé de s'investir dans la sensibilisation et a modifié le thème qui a été retenu cette année de la conférence religieuse en mettant comme thème l'islam face au terrorisme, le cas Boko Haram. Et à partir de cette conférence, qui avait associé des experts dans le domaine du terrorisme, comme le docteur Bakary Samb, qui s'était excusé ce jour en nous mettant en relation avec un de ses amis, M. Rouma. Également, le professeur Abdoulatif Aïdara du Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Nous avons mis ensemble ces experts et les prêcheurs traditionnels. Parce que notre objectif, c'était d'arriver à vraiment faire le lien, créer la relation entre ces deux élites de la société sénégalaise pour une meilleure prise en charge de nos activités de sensibilisation et de prévention. Donc, notre exemple aujourd'hui va vous rappelez certainement le modèle marocain des morshidates. Parce que, contrairement à ce que nous vivons très souvent dans notre société, qui cherche à opposer la femme au chef religieux, nous avons tenté de travailler ensemble, de voir qu'est-ce qui peut nous unir au-delà de points de divergence, comme le code de la famille. Qu'est-ce qui peut nous réunir? Qu'est-ce qui peut nous unir pour vraiment travailler ensemble dans la recherche de la paix? Alors, nous, c'est ainsi donc que, avec la sensibilisation des femmes, nous avons pris la tâche des chefs religieux, aussi bien musulmans que prêtres, mais également des autorités coutumières pour un tout petit peu, pour mettre cette relation, pour rendre effective cette relation. Et c'est depuis cette date que démarra un processus de collaboration entre les femmes et les religieux pour faire de la prévention auprès des jeunes tentés par l'émigration clandestine et l'extrémisme violent. Bien que n'ayant pas encore formalisé cette structure, nous avons été contactés par Timbuktu Institute à travers le docteur Bakary Samb pour vraiment formaliser cette relation à travers Moses for Peace et le mettre en corrélation avec une activité, un projet qu'ils développaient eux-mêmes qui se trouve être Educating for Peace. Alors, comment travaille donc Moses for Peace et l'entente féminine dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention? C'est d'organiser des conférences, mais alors des conférences qui s'organisent en dehors des salons des hôtels. Parce que jusque-là, toutes les rencontres autour du sujet se passent dans des salons huppés des hôtels où la cible véritable, les acteurs véritables n'ont pas accès. Donc c'est ça, dans des lieux fermés ou alors des salons de conférences. Et nous avons pris l'option de les organiser dans des lieux publics à ciel ouvert et de choisir des sites de forte convergence humaine comme des terminus de bus ou alors des marchés communautaires, donc pour véritablement toucher la cible. Parce que qui sont les radicalisés? Ce sont les jeunes en perte d'espoir, ce sont les jeunes qui sont au chômage. Ce sont les jeunes qui ont totalement perdu espoir de leur pays et de leurs autorités publiques. Et ces jeunes n'ont pas accès à ces endroits. Donc, il fallait qu'on trouve une stratégie pour pouvoir les faire venir ou même alors au passage, parce que même les badauds peuvent participer à ces conférences. Donc, et là-dedans, le discours qui est tenu, c'est le discours de la tolérance. Le discours de la tolérance, mais également un recadrage métaphysique en révisant notre vision à propos de nos revendications identitaires. Parce que, comme le dit le docteur Bakary Samb, une Kalachnikov n'a jamais tué une idéologie. Cette
présence. Pour conclure votre intervention, s'il vous plaît.
Oui, je vais conclure. Donc, c'est pour cette raison que nous devons privilégier la prévention en amont, mais en utilisant nos ressources culturelles africaines à travers le symbole de la mère, qui a un rôle de colonne vertébrale dans le tissu familial. Conscient toutefois que les projets migratoires sont généralement financés par les mères, par les femmes, Moses for Peace s'est levé pour renverser la tendance et permettre aux femmes de travailler à fixer les enfants en usant parfois même, en jouant même sur la dissuasion, en allant jusqu'à faire pression sur les jeunes à travers la menace de vomir toutes les richesses tirées de ce projet. Alors,
merci beaucoup, madame. Si vous avez une
phrase, parce que les alliances sont extrêmement importantes dans ce type de projet, mais également que nos autorités publiques sachent que les jeunes qui sont radicalisés sont désespérés et qu'il faudrait qu'on cherche les voies et moyens pour satisfaire leurs attentes. Donc, le reste, je laisserai les débats.
Merci beaucoup, Madame Tan. Merci beaucoup. Et maintenant, donc, la dernière intervention avant le la discussion avec le public. Oui. Nous aurons jusqu'à 10h30. Donc, Khalid Razali, donc, vous avez la parole pour 5 minutes.
Oui, j'essaye d'être dans le temps. Normalement, je fonctionne comme un diesel, 5 minutes seulement pour réchauffer les moteurs. Mais je vais essayer, je fais recours aux diapos pour être dans le temps. Et approche comparative des bonnes pratiques. Donc, si on peut considérer bonnes pratiques ce que les universitaires font dans leur mission, troisième mission, vous savez que l'intervention, l'action de l'université comme institution publique, c'est sur trois niveaux. Le niveau de la recherche, le niveau didactique et le troisième niveau, c'est le rapport avec la société civile. Sur le cas de la radicalisation, on a traversé une longue période d'être discrédité comme universitaire, dans le sens que les pouvoirs publics s'attendent que nous expliquons dans 5 minutes comment la bête musulmane fonctionne. C'est le rythme en Europe. Après chaque attentat, ils nous appellent pour expliquer comment fonctionne cette bête. Et nous, là, on essaye d'expliquer que nous sommes discrédités depuis plusieurs temps, depuis un temps long, et on a le problème de l'administration de la recherche que nous consommons la majorité de temps, et on a la question d'être dans la posture de la recherche et dans le lieu du savoir. Donc, j'évoque seulement la crise des lieux de savoir face à des phénomènes importants. Ce sont des indicateurs d'une transformation radicale de notre fonctionnement, si vous voulez. Et le rapport entre le sujet et le sacré est complètement changé, et on a besoin vraiment beaucoup de réfléchir, d'être en contre-tendance par rapport à ce que les pouvoirs publics nous demandent comme universitaires. Donc, par la frustration, par la souffrance, on a dit, après des années, je parle de mon groupe de recherche padouane qui a développé un capital de la sociologie de l'islam, qui a travaillé sur la troisième mission beaucoup, dans le sens qui a mené des projets de recherche-action avec les communautés musulmanes. On a développé une sorte de médiation politique là où les lieux de la médiation du conflit social se sont déstructurés. Et on assiste à paradoxes. Les agents de renseignement qui font de renseignement qui collaborent avec les universitaires, avec les communautés musulmanes locales sur la question de l'intégration. Donc, après cette prémisse, je vais vous montrer un projet qu'on vient de gagner, un projet de 2,5 millions, une offre d'appel de notre ministère italien de la recherche scientifique. On a gagné un projet de collaboration et de coopération en essayant de répondre aux besoins cognitifs et opérationnels. On essaye de maintenir notre intérêt important de la théorie sociale et en même temps de faire de l'action et de faire donc les axes sont coopération scientifique, formation des acteurs privés et publics qui sont impliqués dans les politiques publiques, et le troisième axe, c'est la formation du personnel religieux. Dans le contexte italien, européen en général, en ce qui concerne les autorités musulmanes, sont une autorité qui se base surtout sur l'agir social, et on n'a pas, ils n'ont pas le capital, la connaissance théologique. Donc, dans les formations qu'on fait normalement, deux minutes, normalement, on a un problème de compétences, car les universités étatiques laïques, ils ne peuvent pas toucher les questions théologiques. Et donc, ce projet va répondre à ce besoin. Il s'agit de 22 universités dans un réseau. 10 universités font partie de 12 de l'Italie et 10 de l'OCI, Organisation Conférence Islamique. Parmi ces universités, on a 4 universités qui vont travailler sur ce projet-là. Et parmi ces universités, c'est l'Université internationale de Rabat. Concrètement, le champ d'intervention, c'est l'Italie, sur plusieurs niveaux, mais aussi les étudiants et les professeurs de ce réseau des 22 universités. Je ne sais pas si elle est claire, comment on traite la question de la radicalisation. On travaille dans ce projet sur la prévention de la radicalisation. On essaye de complexifier l'approche à la radicalisation en s'occupant de plusieurs angles culturels. On a un master, ma master qui s'adresse ici, les bénéficiaires sont les musulmans en Italie. Les musulmans en Italie vivent une condition de fragilité d'un point de vue politique et juridique. La majorité sont des migrants et sont accusés souvent d'être impliqués dans la question du terrorisme international. Donc les communautés musulmanes locales qui ont un rôle important aussi dans le cadre de la prévention, ils collaborent concrètement avec la police locale et aussi avec les agents de la sécurité, et que sait jamais, ils ont besoin d'un espace de narration pour aller à aller contre les stéréotypes qui s'exercent sur eux. Ils s'adressent aux leaders religieux. On a un cours de formation pour imams et murshidats qui s'adresse à des personnes qui travaillent, je viens de dire, sur leur capacité d'agir social. Il leur manque la formation sur le côté théologique. On a une interschool qui s'adresse aux fonctionnaires du système pénitentiaire, des visiting, des cours conjoints, des cours ouverts à la société civile. Par exemple, 4 cours conjoints, dont j'ai traduit littéralement conjoints, dans le sens qu'ils sont gérés par des professeurs de plusieurs universités, aussi de l'université de l'OSI. On a un exemple ici de la Summer School. On mobilise des étudiants de la Méditerranée dans des périodes, vous savez que la reconnaissance passe surtout à travers la coopération. Il n'y a pas de reconnaissance sans coopération. Et on a
si vous pouvez conclure, si
oui, la Summer School. Voilà, en général. Et voilà. Des formations aussi qui touchent la compétence des opérateurs dans plusieurs contextes publics. Je n'ai pas de conclusion, on va conclure ensemble. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup donc, à toutes ces interventions. On a plusieurs axes, la parole va circuler très rapidement. On a un axe sur la question de la confusion entre l'humanitaire et le militaire. On avait évoqué hier, on parlait de politique militaire. On a la discussion sur Boko Haram, comment le retour des anciens membres de groupes armés, comment les ramener à la société civile. La question du outreach, à qui s'adresser dans les discours? Est-ce que c'est entre nous? Donc, je propose tout de suite que les questions, une question là-bas, peut-être, monsieur, on va recueillir un certain nombre de questions ou réactions, si possible, assez concises, et puis ensuite, vous parlerez.
Merci beaucoup. Merci Reda. Merci à tous ces passionnantes présentations. Tu vois, Bakary, j'étais d'accord avec tout ce que tu as dit. Je trouve que ton passage historique sur les programmes d'ajustement structurel était effectivement un point fondamental et qu'il fallait faire cet historique pour comprendre la pénétration de ces acteurs et l'influence de ces acteurs para-étatiques dans la conduite des affaires locales, la légitimité locale qu'ils ont obtenue en respectant paradoxalement un certain nombre de pratiques syncrétiques, en ayant une méthodologie d'implantation et donc une véritable stratégie d'influence. Donc merci beaucoup pour ton intervention. Je voulais revenir sur un point très précis qui concerne Bakary aussi bien que Claude. Il y a une réalité sociale dont on parle très peu, qui est celle des prisonniers radicalisés ou qu'on accuse de radicalisation au sein des prisons nigériennes, nigérianes, burkinabé et autres. On est dans une situation dramatique. On parle bien, et il faut remettre les choses dans un certain contexte, de 2000-2500 personnes dans certains cas en attente de jugement, dont on sait que la plupart, donc sur accusation d'actes ou de soutien à des actes terroristes, dont la plupart sont en fait les victimes de rapts de l'armée ou des proches lors des opérations, quand ils n'ont pas suffisamment chopé de gens, ils chopent les mecs qui sont sur le bord de la route et ils les ramènent en prison. Bon. Ces jeunes, la plupart analphabètes ou dans des situations économiques très graves, sont jugés par un seul juge spécialisé ou un seul procureur spécialisé dans certains de ces pays. C'est-à-dire qu'ils attendent entre un an et 4-5 ans avant leur premier jugement. Donc on est dans une situation qui est potentiellement explosive dans ces différents pays, et quand on parle de prévention de la radicalisation, je pense que c'est un des thèmes qui est très souvent oublié à travers la sous-région, à travers le Sahel, qui est la gestion de ces prisons et les capacités nécessaires pour les adresser. Et d'autant plus, pardon, je terminerai sur ça, qu'au sein de cette population, 5% à peu près sont des véritables radicalisés, ont un discours ciblés face à ces populations. Donc ils sont capables d'utiliser ce sentiment d'humiliation, de délaissement, d'abandon et cette injustice très profonde pour générer une violence qui est très facilement exploitable par la suite. Donc on a un potentiel énorme, malheureusement, de recrutement et d'expansion pour ces groupes djihadistes à travers ces populations abandonnées. Je voulais savoir ce que vous en pensiez ou que vous pouvez nous dire à ce propos. Merci.
Merci Guillaume. Monsieur Viorca, il y avait madame et monsieur.
Merci. En écoutant certaines de ces interventions, je me faisais la remarque suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que les sciences sociales devraient beaucoup plus qu'elles ne le font, considérer qu'un de leurs grands objets d'étude, c'est les acteurs de l'antiterrorisme, les acteurs de l'humanitaire, etc. Autrement dit, faire de ces acteurs et de leur action un domaine des sciences sociales. Et je pense que c'est un peu une leçon qu'on peut tirer de certaines remarques qu'on a entendues. On pourrait dire la même chose d'ailleurs pour la justice transitionnelle qui était évoquée plus tôt dans la journée. Donc voilà, je voulais faire cette remarque pour accompagner ce que j'ai entendu. Et je trouve que ce serait très intéressant parce que trop souvent, la littérature sur ces questions, c'est des rapports d'experts, c'est des rapports d'ONG, c'est des choses. Et que l'essentiel pourrait aider beaucoup plus les experts, les ONG, les magistrats, etc. Non pas en les traitant comme des insectes que regardent des entomologistes, mais en leur disant, analysons ensemble votre action pour l'éclairer et élever votre capacité d'analyse et d'action. Voilà un peu une remarque que je faisais en écoutant certains et certaines d'entre vous, surtout.
Merci. Béatrice Messa et monsieur ensuite.
Merci. Bonjour à tous. Merci pour vos contributions. Je voudrais lui poser une question à Bakary. Sur Nigeria et Boko Haram, je voudrais savoir si le contrôle de ressources naturelles ou non naturelles peut expliquer aussi la violence de Boko Haram. Je voudrais savoir si vous avez fait un peu de recherche sur cette thématique. Et Givry, je voudrais savoir aussi si vous pouvez approfondir un petit peu sur comment dépasser alors, comment résoudre une problématique qui est assez grave, cette présence des militaires dans les secteurs humanitaires. Comment vous faites? Parce que j'imagine que vous êtes en train de perdre de la crédibilité par rapport même à la population. Ça doit être difficile de dépasser un obstacle comme celui-là et comment il faut faire. Voilà, c'est ça. Merci.
Voilà, une dernière intervention et puis vous pourrez réagir ensuite.
Merci. C'est relatif à l'intervention de M. Koné. C'est juste pour plus de précision, modestement, une contribution de ma modeste expérience dans l'humanitaire. C'est que je crois que fondamentalement, le militaire, il y a donc des zones d'après qu'on est sanctuarisées qui est difficile aux opérateurs humanitaires d'intervenir. Moi, je crois que au début, les contacts sont difficiles souvent entre humanitaires et forces armées. Mais également, il y a des procédures ou des tentatives de mettre fin à ce principe. Par exemple, au Mali, je crois, normalement, il devrait exister. Et ça, c'est juste une supposition. Dans les cahiers de charges, si j'ose m'exprimer ainsi, de l'aminussement ou de l'ex-Serval changé en Berkane ou le nouveau G5, un cahier de charges qui fait que les militaires soient formés aux rudiments de l'intervention humanitaire. Un exemple, dans le G5, qui concerne nos cinq pays, il y a l'aspect, le premier projet qui est le G5, G5 force armée, terrorisme, antiterrorisme. Et il y a sa composante non létale, qui ne sert pas à tuer, et financée par les amis du Sahel, dont l'Allemagne, les pays européens du Nord et l'Espagne, qui imposent bien que les armées qui interviennent actuellement au Mali, doit faire un rudiment de formation dans l'aspect humanitaire et donc faire un tandem avec les humanitaires dans les régions et les forces militaires. Merci.
Merci. On fait un tour de table systématique. Oui, alors on commence par Bakary et puis on va laisser circuler.
Merci. Je commencerai par la question de M. Vyvorka. Ouais. En fait, nous sommes aussi des universitaires. Ça, c'est la première précision. Mais nous sommes un peu affranchis du retard de l'approche francophone de certains phénomènes. En essayant d'allier, comme nos collègues anglo-saxons, ne pas faire un mur qui coupe le monde de la décision, du monde de la production du savoir et du policy. Ça, c'est une nouvelle méthode peut-être sur laquelle la tradition francophone a eu un certain retard, dont nous nous sommes affranchis en s'inspirant de d'autres méthodes. Et cette question me dérange un peu parce que ça me rappelle des questions que j'ai vécues en France. Lorsque nos collègues français nous regardaient toujours quand on parlait de l'Afrique des réalités, en pensant qu'eux, ils ont les concepts, c'est eux qui ont la conceptualisation, et que nous étions que des raconteurs de données de terrain. Je pense qu'il est temps que nos collègues du Nord apprennent à prendre un peu de. À se bonifier aussi. En apprenant des méthodes et des approches que nous avons dans le Sud. Et ce que je trouve un peu aussi pas très clair dans la question, c'est qu'on est en train de nous refuser refuser aux chercheurs du Sud ce que des chercheurs du Nord font allègrement. On ne peut pas dire que la politique française sur la question de l'islam, sur la question du monde arabe, ne soit pas inspirée par des Gilles Kepel, par des Olivier Roy. Donc nous sommes dans cette posture-là, dans nos sociétés où il y a des maigres ressources investies dans la recherche, on essaye de faire de sorte que les fruits de la recherche puissent alimenter les décisions politiques. Mais nous ne sommes pas très loin des sciences sociales, nous les connaissons un peu, nous avons fait des thèses aussi. Voilà, c'était simplement cette remarque-là. Je crois que aussi les jeunes radicalisés qui sont en prison, ça, ouais, c'est un vrai problème. Dans le bassin de la Tchad, il suffit que vous soyez un Kanouri, donc vous êtes Boko Haram. Dans le Massina, au centre du Mali, aujourd'hui, quand on a envoyé les Dogons pour combattre des... Donc, vous êtes Peul, vous êtes terroriste. Ça produit Amadou Koufa, ça produit Malam Diko au Burkina, et ça risque de... Je pense que c'est des choses sur lesquelles nous devons revenir. Mais je crois qu'il y a un véritable problème entre la question de la justice pénale et la gestion du terrorisme. Il y a une étude que nous avons faite en 2018 avec l'ONUDC, qui, même les acteurs de la chaîne pénale disaient que la lutte contre le terrorisme telle que ça se présente aujourd'hui, avec cette judiciarisation, était inefficace. Et c'est ça qui est la difficulté, qu'on soit un chercheur en sciences sociales ou quelqu'un intéressé par les policiers, c'est comment, en fait, le terrorisme qui est, en fait, quand on a le phénomène, c'est une longue chaîne dont chaque maillon, parfois pris individuellement, peut ne pas être punissable. Autant celui qui transporte l'argent. Donc, si vous disséquez, c'est... maintenant, il faut mettre toute la chaîne, toute la chaîne là pour comprendre. Je suis d'accord qu'il faut aussi parfois prendre cette distance par rapport au réseau de renseignement, etc. Et je pense que là, parmi les effets de la contre-terrorisme en Afrique aujourd'hui, il y a le repositionnement de plein de gens qui étaient considérés comme des dictateurs, mais qui sont vus aujourd'hui comme des gens bien, parce qu'ils luttent contre Boko Haram. Bon. Et donc, je crois que sur cela aussi, nous devons prendre nos distances en tant que chercheurs. Le contrôle des ressources naturelles, Béatrice, je suis d'accord. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui disent que ce qui se passe au centre du Mali, qu'on veut expliquer comme un génocide ethnique, guerre ethnique en Afrique, parce que c'est plus facile de dire ça en Afrique, c'est la lutte autour de ressources naturelles, pâturage, contrôle foncier, plus une malgouvernance sécuritaire, le fait d'avoir accepté des milices Dogon pour lutter contre des terroristes et que finalement les Dogon considèrent tous les Peuls comme des terroristes et qu'on en arrive à de telles situations. Merci.
Merci. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, la question de Monsieur Gavorka, parce que je pense que en fait c'est là où ma présentation en fait essaie également d'amener. Et finalement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et si je peux me permettre, Monsieur Bakary, c'est justement c'est là que notre panel est intéressant, puisque ici je parle au nom d'une organisation qui existe, qui perdure depuis 2001. Et ça va faire plus de 3 ans que je travaille dans cette organisation-là. Nous avons vu beaucoup de chercheurs, beaucoup de consultants, nous avons initié beaucoup d'études. Aucune de ces études n'a repris les leçons qui étaient apprises avant. Donc il y a en fait ça, il y a maintenant différents acteurs qui existent, les ONG qui agissent en tant que ni gouvernement ni parti au conflit, donc c'est très bien, il faut maintenir notre autonomie et notre indépendance, c'est très important, mais en même temps il y a aussi d'autres acteurs. Il y a aujourd'hui en fait une population de consultants qui existe, qui agit, qui donne des informations très utiles, mais qui également ne regarde pas en arrière. J'ai commencé en fait mon emploi en tant que coordinatrice, donc très très bas au niveau de l'organisation. Mon objectif était simplement de répondre aux indicateurs de performance. Combien on a agi, combien de personnes on a réussi à mobiliser, où est-ce qu'on a réussi à aller. Vraiment, c'était juste des checkbox. Mais maintenant que j'ai pu avoir une vision un peu plus globale, je me rends compte que finalement, ce qu'on fait ne sert pas vraiment à grand-chose sur le long terme, dans la mesure où, une fois que les fonds s'arrêtent, une fois que l'initiative s'arrête, les effets de notre action, eux aussi, disparaissent et s'évaporent. Et vraiment, je me permets de faire également cette remarque, sans dénaturer la nature des efforts que nous mettons tous ensemble au niveau micro, au niveau local, en agissant par exemple à des niveaux tellement précis qu'on peut agir sur un arrêt d'autobus, enfin sur un terminus de bus, mais une fois que l'initiative, que la campagne de plaidoyer s'arrête, est-ce que véritablement ces populations continuent à agir, répliquent en fait les actions qu'on a faites? Et c'est pour ça que je voulais vous parler de l'expérience qu'on a eue avec les centres de protection pour l'enfance, parce que c'est une population qui se renouvelle tous les jours. On peut agir autant qu'on veut avec ces enfants en essayant de les former la non-violence, en essayant de les former sur les life skills et puis les valeurs de tolérance et de partage, etc. Mais il va y en avoir un nouveau qui va revenir reperturber l'ordre social. Donc, quel est véritablement notre rôle en tant qu'acteur sur le long terme, de façon à ce qu'on puisse stabiliser et non plus juste réparer, et vraiment agir sur les causes de manière à les maintenir, être considérés en tant qu'acteurs qui doivent exister. Nous devons exister sur le long terme, nous donner un véritable statut. Aujourd'hui, je vais aussi soumettre une autre information. Il n'existe pas de syndicat pour les ONG. Nous, en tant que travailleurs dans ce domaine-là, nous n'existons pas en termes d'union. Nous ne pouvons pas discuter entre nous. Les seules opportunités que nous avons à discuter, c'est au niveau de ces rencontres-là. Et ça reste à chaque fois individuel. Le jour où je vais quitter ma position, finalement, toutes mes critiques, toutes mes... désolée, hein, vous m'avez laissé 5 minutes. Mais toutes les... Ok, donc toutes les critiques qu'on met en avant disparaissent également. Et donc c'est ça qu'il faut, il faut pérenniser les valeurs que l'on porte tous de façon à ce qu'elles soient véritablement efficaces.
Si vous souhaitez réagir ou témoigner, ou sinon Claude Mbou peut prendre la parole, comme vous voulez, madame.
Juste conclure sur mon propos et dire, face aux défis du développement, les risques sécuritaires constituent un enjeu majeur. Nous devons par conséquent rester vigilants et trouver des points de convergence pour une diplomatie de paix qui passe inéluctablement par l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, au développement et à l'équité territoriale. Étant entendu que frustration et humiliation peuvent mener vers la radicalisation.
Voilà, merci pour ces paroles sages et pour une proposition d'une sécurité élargie, hein, l'accès, voilà, une certaine quiétude, une certaine stabilité. Claude ?
Oui, peut-être je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Remercier les initiateurs de cette rencontre qui nous permettent de débattre ainsi la Maison des sciences de l'homme, le programme Violence et sortie de la violence et la chaire Culture et société qui nous accueille ici. Et je suis bien intéressé par toutes les observations et les questions qui ont été formulées. Sur la judiciarisation, sur les cas de ceux ou qui sont présumés radicalisés aujourd'hui en situation d'incarcération, je crois que l'une des portées de mon propos, c'était de dire à quel point il était difficile d'établir la culpabilité de ceux ou de celles qui passent aujourd'hui pour être déradicalisés. C'est la raison pour laquelle, en tant que chercheur, il nous faut avoir le sens de la nuance, le sens de la distance pour approcher ces questions. Moi, j'ai pris beaucoup de temps avant de m'exprimer sur ces questions. Je précise que je travaille sur ce terrain depuis 2011. Donc, j'ai observé la transformation de ces environnements. J'ai été au plus près des groupes concernés et je n'étais pas toujours sûr de comprendre exactement ce qui se passe, d'autant plus qu'il y a une saturation de discours produits sur le sujet, des hypothèses qui émergent à l'encan. Cela m'impressionne toujours, la facilité avec laquelle des gens peuvent pontifier sur des questions aussi complexes, alors qu'on vit à chaud ces situations. Donc, très modestement, il faut parler à partir de données, et c'est ce que moi j'ai essayé de faire. Et quand je parle de ces phénomènes d'étiquetage, de stigmatisation, il n'y a pas de littérature sur ces questions. Il a fallu être au contact, et justement l'accès aux données est très compliqué pour les chercheurs. Et c'est par la médiation des dispositifs ou des missions internationales comme celle qu'avec Reda, avec Rachid, nous avons opéré, et d'autres missions que j'ai pu mener, j'ai pu accéder à certains moments à ces terrains. Je n'ai jamais échangé avec ces prisonniers parce que l'accès à ces prisonniers est tributaire d'un certain nombre d'autorisations que je n'étais pas préoccupé d'obtenir à ces moments. Et qu'est-ce qu'on fait des témoignages? Parce que très facile, quand vous voyez dans les rapports d'experts, tel vous dit j'ai interrogé tel nombre de personnes, j'ai recueilli des témoignages. Mais non, il faut réfléchir sur ce type de données, sur les discours qui sont produits en situation de contrainte, comme c'est le cas pour ces personnes incarcérées. Qu'est-ce qu'un prisonnier vous dit alors qu'il est considéré comme étant présumé terroriste? Quel discours il produit, quel discours il peut produire dans ce type de situation? Lorsque vous faites des agents de renseignement, vos informateurs, c'est quand même au demeurant problématique pour un chercheur. Donc il faut tout mettre à distance, et c'est la raison pour laquelle moi personnellement j'ai très peu publié jusqu'à présent, même si je fais un travail de fond sur le sujet. J'ai participé à très peu de colloques, je n'en ai pas couru. N'eût été l'amabilité de Reda, je ne serais sans doute pas ici. Je n'ai pas couru les colloques. J'ai assisté à des colloques internationaux dans différents pays où j'ai été invité. J'ai assisté à l'initiation de cette plateforme Mais je n'ai jamais été demandeur d'intervention dans ce cadre. Parce que j'estime que la prise de parole sur ces enjeux concerne le destin de nos sociétés. C'est des questions assez sensibles. Je ne veux pas me faire le relais des dispositifs sécuritaires qui ont leur rôle légitime, mais je ne veux pas être une caution savante des agendas sécuritaires. Et c'est très souvent, malheureusement, le cas sur ces enjeux. Et je pense que vous avez raison sur cet aspect, la position des chercheurs africains, qui sont généralement financés grâce aux missions d'expertise. Mais le risque, chaque fois, c'est de se laisser embarquer dans ces dispositifs.
Du Nord aussi, hein.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il faut travailler chaque fois à une mise à distance. Moi, je me suis brouillé avec le commanditaire de cette mission d'évaluation parce que ce que j'ai révélé n'arrangeait pas les acteurs qui travaillent à ces dispositifs. Ça, c'est un autre aspect à prendre en compte dans ce souci de produire de la réflexivité sur les pratiques. À partir du point de vue des chercheurs. Non, ça touche à des intérêts, à des gros intérêts. C'était des gros. Ça, c'était un grand projet. Je ne peux pas en parler, malheureusement, de façon précise, mais c'était un très grand projet avec de gros financements. Et donc, il y a des acteurs, comme Reda le relevait hier, qui ont constitué toute une économie autour du maintien de l'ordre.
Merci. C'est une parole aussi sapientale que de mettre l'accent sur l'aspect vraiment épistémologique, la connaissance de la connaissance qui est produite sur le terrain. Donc cette distance, c'est un point qu'il faut, sur lequel il faut qu'on travaille. Monsieur Djibril Kone, si vous pouvez aussi réagir.
Donc, je pense que le problème, ce n'est pas la formation humanitaire des militaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous assistons à une militarisation incroyable de l'espace humanitaire. Notamment, vous prenez seulement, prenons le Mali, où vous avez Barkhane, vous avez la MINUSMA, vous avez le G5 Sahel, vous avez les forces maliennes, vous avez les milices qu'on appelle le Gatia, le MSA, vous avez le HCIA, vous avez aussi d'autres humanitaires cachés, notamment les groupes terroristes, ils font aussi de l'humanitaire. Donc, il y a tous ces mondes qui évoluent dans l'espace humanitaire. Ce qui fait que la marge de manœuvre des humanitaires civils commence à se réduire parce que les humanitaires civils, ils ont un mandat, ils ont des principes, etc. Quand vous prenez, par exemple, une force militaire comme Barkhane, qui vient comme ça, et voilà, vous êtes humanitaire, vous allez dire, il y a des procédures, il y a des conditions de passation des marchés, il y a la transparence, il y a etc., il y a etc. Mais l'autre, il vient, il est militaire, le chef. Parce que nous, en fait, aussi, vous savez, le monde humanitaire essaie aussi d'éviter l'instrumentalisation de l'aide. Alors que ces groupes sont constitués souvent pour essayer d'orienter l'aide pour se faire aussi un peu d'aura auprès des populations. Et donc, quand les forces militaires viennent, MINUSMA, etc., ils viennent, le chef de fraction ou un chef coutumier dit, je vais un puits ici. C'est à son fils qu'on passe les marchés, pendant que l'humanitaire va dire non, vous ne remplissez pas les critères, les conditions, etc. On doit donner à un entrepreneur professionnel, etc. C'est ça le problème, en fait. Et ce n'est pas que, aussi que les militaires vont dans des zones où les ONG ne vont pas. Non. Toutes les zones grises, derrière les ONG, en fait, essaient de trouver plus profond même que les militaires. Ou bien vous êtes dans une mission comme ça, vous êtes dans une mission humanitaire, vous venez sur un site, vous venez trouver dans un centre de santé des militaires qui sont là en train de donner des paracétamol, machin, tout ça. Et quand vous dites, voilà, et en général, les groupes et ces groupes-là, ces militaires-là, ces forces-là sont des cibles quand même des groupes terroristes. Et on demande aux humanitaires, ces groupes terroristes avec lesquels les humanitaires échangent, ils parlent, ils disent de prenez vos distances par rapport aux militaires parce que ce sont nos cibles. Donc, ça pose vraiment des sérieux problèmes. Et quand vous dites aux militaires aussi, ben, écoutez, il suffit juste de nous informer que vous êtes dans tel endroit, nous, on ne va pas là-bas. Imaginez, vous venez trouver Barkhane dans un centre de santé, il sort, on ouvre le feu partout, les gens commencent à se tirer d'ici, vous êtes une ONG, vous allez vous trouver entre des faits croisés. Et quand vous dites aux militaires, à la MINUSMA ou aux forces maliennes, communiquez-nous au moins si vous êtes en mouvement. Non, non, le mouvement des militaires, c'est discret, on ne peut pas vous dire où on va ou qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà les gros problèmes. Et là, c'est des populations qui sont pénalisées. Quand vous prenez en plus de cela les mesures qui sont prises, notamment, on dit interdiction des motos de circuler. Pourtant, pour aller vacciner des enfants ou des femmes à des endroits, il faut trouver un infirmier qui monte sur une moto, etc., qui va toucher ces populations. Quand on dit pas de pick-up, pendant que dans les zones nomades, on sait qu'on a besoin de cliniques mobiles, c'est-à-dire des véhicules qui peuvent tourner dans le désert avec médecins, etc. Et quand on dit pour des questions d'opération contre le terrorisme, on ne veut pas de véhicules pick-up ou on ne veut pas de tel genre de véhicules qui sont utilisés par les ONG, ça pose des problèmes. Et les populations vivent dans une violence, parce que c'est vraiment une violence, les empêcher d'accéder à des services dont ils ont besoin et qui peuvent être offerts.
Merci bien. C'est Khalid Razali, vous avez, votre présentation a mis en avant des logiques de savoir pour la prévention. Donc, dernière réaction, nous sommes à
oui,
part
et on va clôturer. J'ai essayé d'être dans l'objectif de panel, de donner exemple d'une bonne pratique, mais j'accepte votre sollicitation par rapport à la question de l'effort qu'on devrait faire sur le plan épistémologique. On doit partir de cette dénonciation par rapport à la faiblesse des sciences sociales. Oui, on peut dire qu'on peut travailler sur les acteurs, mais la question, c'est plus complexe encore. Hein. Combien de temps on a pour faire la recherche? Ah, oui. Et quel type de recherche a l'opportunité d'être lise, hein, d'être utilisée, avoir une utilité publique, hein. Nous, dans notre contexte européen sur la question de l'islam, on dénonce depuis longtemps qu'on parle beaucoup de l'islam, mais on fait un petit peu de recherche. En Italie, on a deux recherches dans l'histoire de la sociologie de l'islam. Hein, deux recherches au niveau national. On a, oui, des recherches, des thèses, des petites thèses, oui, mais au niveau aussi symbolique. Hein, pour des musulmans qui vivent en Italie, honte de dire qu'on a pu avoir seulement l'espace pour deux recherches. Hein. La première en 99, la deuxième en 2000, hein, avant les faits d'en septembre. Donc la question, c'est plus complexe. Et pour ce qui concerne moi, le sociologue que je suis, je travaille plutôt sur... la sociologie de l'organisation. Je travaille sur la pluralité religieuse et la diversité culturelle dans la vie des institutions étatiques. Et là, je m'amuse à voir comment les institutions étatiques n'arrivent pas à être dans l'état démocratique. Et nous oblige, nous, les chercheurs, de faire un saut de logique et travailler sur la radicalisation sans passer par une recherche fondamentale. Hein. La subjectivité des musulmans à l'intérieur de la prison, la subjectivité des agents de police, l'espace de la prison, hein, l'espace symbolique, hein, les cadres symboliques, les règlements. Hein, et seulement par ce type de reconnaissance de la crise, les organisations étatiques pourraient travailler sur sa globalité et donc sur sa crise. Hein. Et l'enjeu, c'est sur est-ce que ces sociétés, nous sommes dans une société contemporaine, hein, en crise, on a le temps pour réfléchir sur le modèle de la gestion de la complexité. Ou bien non. Dans les établissements, les hôpitaux en Europe, les prisons et les écoles, il semble que le modèle monoculturel est indiscutable. Hein. On parle de l'interculturalité, on parle beaucoup de plus de choses, mais revoir les paradigmes sur lesquels sont été construits les modèles de la gestion de la différence semble impossible. Hein. Et là, la question. Et là, la question, car on peut renvoyer à la question de l'État démocratique. L'Italie, comme réponse par rapport à le risque de radicalisation, elle a promu dans les derniers temps l'expulsion, car la majorité des musulmans n'ont pas de nationalité, et on a une réaction par des paradoxes. On procède par paradoxes. L'Italie, c'est un paradis des paradoxes. On a dernièrement, il y a 2 ans, que des juges ont pris l'espace de législateur et ont, face à un cas de 2 personnes, un fils des Albanais et un musulman italien accusé de terrorisme, ont fait l'expérience de individuer 2 contextes aux 2 acteurs de la déradicalisation. En absence d'un programme, d'une loi, ils ont individué une communauté musulmane pour le fils albanais, sans se demander qui l'approche, qui va suivre l'accusé. L'autre, très très bizarre, et très aussi important, on se combat sur la question de l'utilité publique de l'université, et a été le juge a interpellé la compétence d'un département de l'université de Bari pour faire une sorte de formation de programme de déradicalisation. Et là, on a l'universitaire qui sort de son rôle. On a un chaos. On a le chaos.
Merci beaucoup à tous nos intervenants. Cette conversation créatrice se termine dans le cadre de ce panel, mais elle va se poursuivre, je pense. Vous aurez l'occasion encore de vous exprimer dans le débat général qui aura lieu tout à l'heure. Donc, merci encore à tous nos intervenants.